إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Chers auditeurs de la radio Sunna, on continue ce soir l'étude du premier des trois fondements mentionnés par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman At-Tamimi rahimahullah ta'ala dans cet épître, les trois fondements. Nous avons vu lors des précédentes assises que l'auteur rahimahullah ta'ala a commencé ce fondement en abordant deux questions très importantes. Qui est ton Seigneur et comment as-tu connu ton Seigneur? Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « Wa rabbu huwa al-ma'boud » et le Seigneur est celui qu'on adore. C'est-à-dire qu'il fait partie de la connaissance de ton Seigneur, que tu saches qu'il est celui qu'on adore et qu'il est celui qui mérite l'adoration. Alors qu'autre que lui ne mérite en aucun cas d'être adoré. Donc c'est le sens visé par la parole de l'auteur ici lorsqu'il a dit « Wa rabbu huwa al-ma'boud » et le Seigneur est celui qu'on adore, c'est-à-dire celui qui mérite l'adoration. Et également, il a voulu une fois de plus insister sur le fait qu'il n'est pas suffisant pour l'homme de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est indispensable qu'en plus de cela, tu reconnaisses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré et que nul autre que lui ne mérite une quelconque adoration. À partir du moment où tu reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala est ton Seigneur, alors il t'incombe de reconnaître qu'il est celui qu'on adore et qu'il est le seul à mériter l'adoration en dehors de tout autre que lui. Ensuite, il a dit, rahimahullah, wa dalil, et la preuve. Une fois de plus, l'auteur, rahimahullah, il nous mentionne une question et il nous amène avec celle-ci sa preuve qui est ici tirée du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit وَالدَّلِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ عْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui fait descendre du ciel la pluie et par elle fait sortir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. Ceci est donc le verset que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné comme preuve que le Seigneur est celui qu'on adore. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit dans ce verset « Ya ayyuhan nas, ô vous les gens !» Et ceci est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'ensemble des gens, les croyants comme les mécréants. Car Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au début de cette sourate, c'est-à-dire la sourate Al-Baqara, la sourate la vache, que les gens sont divisés en trois catégories. La première catégorie, ce sont les croyants, ceux qui croient en l'imperceptible et ceux qui croient au jour dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme étant ceux qui réussissent, c'est-à-dire qui réussissent ici-bas et dans l'au-delà.
Il a dit dans le cinquième verset de Sourate al-Baqarah, après avoir mentionné certaines des caractéristiques des croyants dans les premiers versets, « Oulaika ala hudam mir rabbihim wa oulaika humul muflihun. » Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent. C'est-à-dire qui réussissent ici-bas et qui réussiront, incha'Allah, dans l'au-delà. La deuxième catégorie de personnes parmi les gens, ce sont les mécréants. Ceux qui ont manifesté ouvertement leur mécréance et leur refus de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala les a évoqués dans les versets 6 et 7 de Surat al-Baqarah. « Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. » Certes, les mécréants, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du verset 8, il a mentionné une troisième catégorie de personnes. Qui sont-ils? Ce sont les hypocrites, ceux qui ne sont pas avec les mécréants et qui ne sont pas avec les croyants. C'est-à-dire qu'ils montrent qu'ils sont parmi les croyants en apparence, mais au fond d'eux, ils sont mécréants. Et ceux-là, en réalité, ils sont encore pires que les mécréants qui manifestent ouvertement leur mécréance. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à leur sujet dans cette sourate plus d'une dizaine de versets, alors qu'il a révélé au sujet des croyants quelques versets et sur les mécréants simplement deux versets, alors que pour les hypocrites, il a mentionné plus d'une dizaine de versets à partir du verset 8 qui est sa parole subhanahu wa ta'ala « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ » Et parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons à Allah et au jour dernier alors qu'ils n'y croient pas. » Et il a évoqué leur situation jusqu'au verset 20. Et tout ceci nous prouve quoi? Ceci nous prouve le grand danger pouvant provenir des hypocrites et le fait que cet acte est un acte ignoble. Ensuite, après avoir mentionné ces trois catégories de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuhan nas » au verset 21 « Ô vous les gens » c'est-à-dire « Ô vous les gens croyants, mécréants et hypocrites » et les savants ont dit que ceci est le premier appel, le premier nida que l'on trouve dans le mushaf « Ô vous les gens, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum » Adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur, ceci est un verbe à l'impératif. Et les savants ont dit que ceci est le premier ordre que l'on trouve dans le mushaf. Le premier ordre qu'il y a, c'est l'ordre de l'adoration. C'est-à-dire, vouer un culte exclusif dans l'adoration de votre Seigneur. Pourquoi ? Car c'est lui votre Seigneur. Et l'adoration ne convient qu'à être vouée au Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a mentionné la preuve de cela en disant « Alladhi khalaqakum » celui qui vous a créé, « Walladhina min qablikum » ainsi que ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire parmi les communautés précédentes. Et il a également créé les anges, il a également créé les djinns, l'ensemble des hommes et l'ensemble des créatures, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit « La'allakum tattaqoun » ainsi atteindrez-vous la piété. C'est-à-dire que si vous méditez sur cela, cela vous permettra peut-être d'atteindre la taqwa, d'atteindre la piété. Si vous méditez sur le fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé et qu'il a créé ceux qui vous ont précédé, peut-être atteindrez-vous la piété et craindrez Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif dans l'adoration. Car il n'y a aucun moyen de se préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette obéissance, elle n'a lieu qu'en lui vouant un culte exclusif dans l'adoration. Il dit donc, ainsi atteindrez-vous la piété, c'est-à-dire ainsi vous vouerez un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ensuite, il a continué à exposer les bienfaits de sa seigneurie et des signes évidents reconnus par l'ensemble de l'humanité. Et il a rappelé cela pourquoi ? pour s'en servir de preuve quant au fait qu'il est le seul à mériter d'être adoré, seul sans associé. Il a donc dit, subhanahu wa ta'ala, الذي جعل لكم الأرض فراشا. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit, c'est-à-dire un endroit où vous vous reposez, un endroit où vous construisez vos demeures, un endroit où vous faites vos plantations et vous plantez des graines pour en tirer des fruits. Et également, c'est sur cette terre que vous cheminez lors de vos voyages en différents endroits. Donc la terre est à l'image d'un lit. Ensuite, il a dit « وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ » et le ciel pour toi. Car le ciel est comme le plafond de la terre. Et il y a dans le ciel de grands intérêts. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ensuite « وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » Et il fait descendre du ciel la pluie, par laquelle il fait sortir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui donnez donc pas d'égo alors que vous savez. C'est-à-dire, ne donnez pas d'égo à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez que c'est lui qui vous a créé, que c'est lui qui a créé ceux qui vous ont précédé, que c'est lui qui a fait pour vous de la terre un lit et du ciel un toit et qui a fait descendre la pluie du ciel pour faire pousser des fruits afin de vous nourrir. Si vous reconnaissez tout cela, alors ne donnez pas d'égo à Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous et lui, un culte exclusif dans l'adoration. Ce verset est donc une preuve que Allah, le Seigneur de l'univers, est celui qu'on adore. Cela nous prouve donc la parole de l'auteur qui a dit « Et le Seigneur est celui qu'on adore ». En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset « U'budu rabbakum » « Adorez votre Seigneur », c'est-à-dire vous et lui, un culte exclusif dans l'adoration et n'adorer nul autre que lui. Ensuite, il a dit, rahimahullah, « قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة » L'imam ibn Kathir a dit, « Celui qui a créé ces choses est le seul en droit d'être adoré. » Celui qui a créé ces choses, c'est-à-dire les choses mentionnées dans le verset, est le seul en droit d'être adoré. Donc le Shir, rahimahullah, après nous avoir mentionné ce verset comme preuve, il a mentionné également la parole d'Ibn Kathir en explication de ce verset. Et ceci nous prouve quoi? Ceci nous prouve une fois de plus que le Shaykh, rahimahullah, n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Mais il a appelé à ce à quoi ont appelé les savants avant lui. Mais surtout, il a appelé à ce à quoi ont appelé les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam, qui est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de n'adorer nul autre que lui. Donc il nous a mentionné cette parole de l'imam Ibn Kathir rahimahullah qui va dans le même sens que ce qu'il vient de mentionner. C'est-à-dire que celui qui a créé toutes ces choses est le seul en droit d'être adoré. Et comment celui qui ne crée rien pourrait-il mériter une quelconque adoration? Ensuite, le Cheikh rahimahullah, après cela, il va nous mentionner différentes sortes d'adoration. Et avant cela, nous allons tout d'abord voir qu'est-ce que l'adoration. Le sens de l'ibada, dans la langue arabe, cela désigne l'asservissement. L'adoration, dans la langue arabe, elle désigne l'asservissement et l'avilissement. Les savants ont mentionné que l'ibada, elle est de deux sortes. Et elle est de deux catégories. La première catégorie est l'adoration générale. Al-ibada al-amma, ou l'adoration universelle. Celle que voue l'ensemble de la création. Car toutes les créatures sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi bien le croyant que les mécréants, aussi bien le pervers que l'hypocrite, tous sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tous sous la domination et le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ils sont tous enjoints de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ceci est donc l'adoration générale ou l'adoration universelle, celle qui est vouée par tous, par le croyant comme par le mécréant. Tous sont des serviteurs d'Allah et tous sont asservis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul ne peut sortir de sa souveraineté et de son autorité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 93 de la sourate Maryam, إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du Tout Miséricordieux en serviteurs. Tous, sans exception, se rendront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que serviteurs. Donc, tous ceux qui se trouvent dans les cieux et dans la terre, qu'ils soient croyants ou mécréants, tous viendront au jour de la résurrection, soumis, asservis et avilis devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième type d'adoration, c'est celle qui est spécifique aux croyants et qui désigne le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de se rapprocher de lui en lui vouant un culte exclusif subhanahu wa ta'ala. Ceci est l'adoration spécifique. Celle qui est spécifique aux croyants et qui désigne le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se rapprocher de lui en lui vouant un culte exclusif subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration, les savants lui ont donné différentes définitions. Mais la définition la plus générale est celle qu'a donnée l'éminent Cheikh, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il a dit: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. L'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime comme paroles et actes apparents et cachés. Donc, l'adoration, elle englobe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'ordonne que ce qu'il aime subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire, lorsque tu l'accomplis par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est une adoration. De la même manière, lorsque tu délaisses ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, et ce par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est une adoration également. Et l'adoration, elle ne peut être dénombrée dans ses formes. Les formes d'adoration, elles ne peuvent être dénombrées. Car ces formes sont très nombreuses. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est une adoration. Et tout ce qu'il a interdit, le fait de les délaisser, est une adoration. C'est pour cela que l'on dit que les formes d'adoration, elles ne peuvent être dénombrées. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est une adoration. Et tout ce qu'il a interdit, alors le délaisser est une adoration. Et ce que ce soit en apparence, comme les œuvres du corps, ou alors en secret, comme les œuvres du cœur. Tout ceci rentre dans la définition de l'adoration. Et l'adoration, elle a lieu par la langue, mais elle a lieu aussi par le cœur et par le corps. Elle a lieu par la langue, à l'exemple du tasbih, lorsque tu dis Subhanallah, ou alors à l'exemple de toutes les formes de dhikr, comme lorsque tu fais le takbir, le tahlil, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tout ceci sont des adorations qui ont lieu par quoi? Qui ont lieu par la langue. Également lorsque tu récites le Coran, ceci est une adoration qui a lieu par la langue. Également lorsque tu ordonnes le bien et lorsque tu interdis le mal, ceci sont des adorations qui ont lieu par la langue. L'adoration, elle peut avoir lieu aussi par le cœur. Et c'est le fait de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par certaines œuvres du cœur, comme la peur, l'espoir, la crainte, le désir, l'effroi, la confiance et autres œuvres qui ont lieu par le cœur. Lorsque tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala par ton cœur, lorsque tu lui voues un culte exclusif par ton cœur, lorsque tu as une intention véridique dans ton cœur, tout ceci sont des œuvres qui ont lieu dans le cœur et qui sont des adorations. Et enfin, l'adoration, elle a aussi lieu par les membres du corps, comme par exemple l'inclinaison et la prosternation dans la prière. Ceci sont des œuvres du corps qui sont des adorations. Également, parmi les œuvres du corps, il y a la hijra, l'émigration sur le sentier d'Allah, ou encore le pèlerinage, et d'autres adorations du corps, comme le jeûne et autres. Tout ceci a lieu par les membres du corps. On voit donc à travers ces exemples que l'adoration, elle peut avoir lieu par la langue, par le cœur et par le corps, et elle peut, en une seule adoration, réunir ces trois choses en même temps. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Wa anwa'u l'ibadati allati amara Allahu biha mithlu l'islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khawf wal raja wal tawakkul wal raghbatu wal rahbatu wal khushu' wal khashyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adhatu wal istighatha والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Ensuite, il a dit, rahimahullah, quant aux différentes formes d'adoration, comme l'islam, la foi, la bienfaisance, ainsi que l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance, le désir, l'effroi, l'humilité, la crainte, le retour vers Allah, la demande d'aide, de protection et de secours, le sacrifice, le serment et d'autres formes d'adoration qu'Allah a ordonnées, elles sont toutes réservées à Allah. Elles sont toutes réservées à Allah. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a donc voulu ici mentionner quelques exemples d'adoration. Cela ne restreint pas les différentes formes d'adoration. Il n'a pas ici dénombré toutes les formes d'adoration. Car l'adoration, comme on l'a dit, ses formes sont bien plus nombreuses que cela. Mais ce qu'il a voulu, rahimahullah, c'est mentionner des exemples d'adoration. Et il a mentionné celles-ci notamment, car ce sont des adorations qui peuvent échapper à beaucoup de gens. Et de ce fait, il y a nombreuses formes de shirk, nombreuses formes de polythéisme qui ont lieu à travers ces adorations qu'il a mentionnées, rahimahullah ta'ala. Il a donc commencé par mentionner l'islam, l'iman, l'ihsan. L'islam, la foi et la bienfaisance. Et ceci sont les trois formes les plus immenses d'adoration. L'islam, la foi et la bienfaisance. Et on les verra, ces trois formes d'adoration, en détail, inshallah, à travers les paroles de l'auteur, rahimahullah, lors de notre étude du deuxième fondement. Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, va les mentionner. Et il va mentionner leurs piliers, les piliers de l'islam, les piliers de la foi, ainsi que de la bienfaisance. Et il va mentionner les preuves de cela lors du deuxième fondement, incha'Allah ta'ala. Et le Cheikh les a mentionnés ici, rahimahullah, qu'à titre d'exemple, voulant appuyer le fait que ce sont des adorations. Il a mentionné donc ces différentes formes d'adoration. Et il va mentionner pour chacune d'entre elles la preuve du Coran et parfois de la Sunna, que ce sont des adorations. Ensuite, après cela, il a dit وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا ainsi que d'autres formes d'adoration qu'Allah a ordonnées. كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى elles sont toutes réservées à Allah. On tire deux bénéfices de cette parole. Premièrement, cela nous confirme que le Cheikh rahimahullah ta'ala, il n'a pas voulu ici énumérer l'ensemble des adorations. Car il a dit, et d'autres formes d'adoration qu'Allah a ordonnées. Cela veut dire que l'adoration est bien plus vaste que ce qu'il a mentionné. Ensuite, le deuxième bénéfice que l'on tire de sa parole, c'est que toutes ces adorations, quelles qu'elles soient, elles sont toutes réservées à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ces adorations, elles ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mentionné la preuve de cela lorsqu'il a dit « Wa dalil qawluhu ta'ala » وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا et certes, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et c'est le verset 18 de la sourate Al-Jin. On a déjà vu lors de l'introduction ce verset. Et on a vu qu'il nous prouvait que les mosquées, qui sont ces lieux dans lesquels on accomplit la prière, elles sont consacrées et réservée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu qu'elle devait être purifiée de toute forme de polythéisme, de toute forme de shirk, mais également de toute forme d'innovation, de toute forme de bid'a. Elles doivent être purifiées de cela et elles ne doivent être consacrées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont mentionné qu'Al-Masajid ici dans le verset, le terme Al-Masajid, en plus de viser les maisons d'Allah, ces lieux qui sont consacrés à la prière, il vise également les membres sur lesquels on se prosterne. Le musulman, lorsqu'il se prosterne pour Allah, il se prosterne sur ses 7 membres. Ses 2 pieds, ses 2 genoux, ses 2 mains et son visage, c'est-à-dire son front et son nez. Et ces membres-là, ils sont appelés masajid. Et donc, ils sont réservés à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le musulman, il ne doit se prosterner pour nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne doit se prosterner que pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez donc personne avec Allah. Et l'invocation, elle se divise en 2 catégories. L'invocation d'adoration et l'invocation de demande. Il y a l'invocation de demande qui est lorsque tu adresses une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, fais-moi entrer au paradis. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés, etc. Ceci est une invocation de demande. C'est-à-dire que c'est une demande que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième type d'invocation, c'est l'invocation d'adoration. Et celle-ci, elle englobe l'ensemble des actes d'adoration. Tout acte d'adoration est appelé dua, comme il est venu dans le hadith que l'on va voir par la suite. Ad-du'a ou al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. C'est-à-dire que l'adoration tout entière est invocation. Car lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu donnes une aumône, qu'est-ce que tu recherches en réalité? Tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme si tu lui demandais à travers cet acte, « Oh Allah, fais-moi entrer au paradis et préserve-moi de l'enfer. » C'est pour cela que c'est également une invocation, une demande. Donc ce verset, « فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » N'invoquez donc personne avec Allah, il englobe les 2 types d'invocations. L'invocation de demande, mais aussi l'invocation d'adoration. Donc c'est comme s'il avait dit, « Subhanahu wa ta'ala, n'adorez donc personne avec Allah. » Ne vouez l'adoration à nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Et quiconque voue une de ces formes d'adoration, une seule, que ce soit celle qu'il a mentionnée rahimahullah, ou d'autres adorations, quiconque voue une de ces adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un mushrik kafir, c'est un polythéiste mécréant. C'est-à-dire qu'il s'est rendu coupable du plus grave des péchés qui est le shirk, le polythéisme, et il est par cela sorti de l'islam et il est devenu mécréant. Le shir, rahimahullah ta'ala, il a dit, « Wad dalil ?» Il nous amène la preuve de cela. Il ne nous expose pas ce sujet sans nous amener la preuve et qui est ici une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 117 de la sourate Al-Mu'minun. « Wad dalil qawluhu ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, la burhana lahu bihi, fa innama hisabuhu inda rabbih, innahu la yuflihu al-kafirun. » Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité au sujet de laquelle il n'a aucune preuve évidente, alors il aura des comptes à rendre à son Seigneur. Et en vérité, les mécréants ne réussissent pas. Quiconque invoque avec Allah une autre divinité. On a dit que l'invocation, elle se divisait en 2 catégories. L'invocation de demande et l'invocation d'adoration. Et ici, l'invocation, elle englobe les 2 types d'invocation. Donc, quiconque invoque, c'est-à-dire quiconque adore avec Allah une autre divinité, quel que soit le type d'adoration qu'il lui voue, que ce soit une invocation de demande, ou une prosternation, ou une inclinaison, ou la peur, ou l'espoir, ou autre forme, parmi les formes d'adoration, quiconque adore avec Allah une autre divinité, au sujet de laquelle il n'a aucune preuve évidente, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de preuve de l'existence de cette autre divinité, car le seul vrai Dieu est le seul en droit d'être adoré à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque invoque ou quiconque adore avec Allah une autre divinité au sujet de laquelle il n'a aucune preuve évidente, il aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé dans ce verset, celui qui invoque une autre divinité en dehors de lui, il les a appelés kafiroun. Il les a appelés mécréants lorsqu'il a dit en vérité, les mécréants ne réussissent pas. Ce verset est donc une preuve que quiconque voue une adoration, quelle qu'elle soit, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est alors sorti de l'islam et il fait partie du nombre des polythéistes et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Le Cheikh rahimahullah, il va ensuite mentionner les différentes adorations qu'il a déjà citées en les accompagnant chacune d'elles de sa preuve du Coran ou bien, en plus de cela, d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra dans le prochain cours, inshallah ta'ala, différentes formes de ces adorations. On verra, inshallah, l'invocation, la peur et l'espoir, ainsi que d'autres formes d'adoration, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet lors de la prochaine assise. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.